Voilà, nous visitions à quelques-uns hier une magnifique exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme, une exposition consacrée au golem. Alors qu'est-ce que c'est le golem? La légende raconte que le golem, c'est une créature fantastique créée de toutes pièces par le Maharal de Prague, le plus célèbre des rabbins d'Europe centrale, né en Pologne en 1512 et mort à Prague en 1609. Et la ville de Prague honore toujours sa mémoire, puisque aujourd'hui encore on peut admirer sa statue sur les façades de l'hôtel de ville ou remarquer, aller observer son tombeau qui est monumental dans le vieux cimetière juif de Prague. Et le rabbin Löw aurait inventé le golem, c'est ce que la légende raconte, pour défendre la communauté juive contre les persécuteurs chrétiens. Vous savez comment et combien ces communautés ont été violentées tout au long de leur histoire, victimes des accusations les plus folles, et des pogroms d'une sauvagerie qui laisse sans voix. En l'occurrence, le bruit courait à l'époque, nous sommes donc en plein milieu du XVIe siècle, en Europe centrale, le bruit courait que les Juifs fabriquaient leurs matzot, c'est-à-dire leur pain sacré, avec le sang de petits enfants chrétiens. Les prétextes les plus fous suffisaient pour descendre dans les ghettos avec les haches, les machettes et les couteaux. Les chrétiens n'étaient pas tendres à cette époque-là à l'égard des Juifs, mais les chrétiens n'étaient pas tendres non plus les uns à l'égard des autres à cette époque-là de leur histoire. J'ouvre ici une petite parenthèse puisque nous sommes en 2017 et que nous fêtons le 500e anniversaire de la Réforme. Nous sommes une petite vingtaine à être venus aujourd'hui de Genève à Paris. Et sur les 20 que nous sommes, une seule d'entre nous a dormi cette nuit à l'hôtel. Pourquoi ? Pas du tout parce que notre amie est genevoise pure souche, parce que des Genevois pure souche, ça n'existe pas à Genève. Elle est originaire, elle, d'Amérique latine. Mais tous les autres, c'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous, a une partie de son cœur ici, de la famille, des amis, des connaissances, un pied à terre. En fait, à Genève, nous sommes tous plus ou moins des Parisiens, ou du moins des Français. Et ici, c'était chez nous, il y a 500 ans. Ou plutôt, nous étions ici chez nous. Calvin, avant de fonder l'Académie à Genève, a étudié à l'Institut de France. Et c'est l'exact contemporain du rabbin de Prague qui aurait inventé, dit-on, le golem. Et Calvin a 24 ans, ici même à Paris. Il vient de participer à l'écriture d'un pamphlet, ce pamphlet qui vale à 300 personnes d'être arrêtées, séance tenante. Lui parvient à s'échapper. Il court dans les rues du côté du Panthéon et il parvient à escalader une petite corne, une espèce de corne de cerf, et de prendre la tangente par les toits. Et ce lieu existe encore et on peut aujourd'hui encore aller l'admirer. Ça s'appelle la Tour Calvin. Ce qui veut dire que si nous sommes à Genève aujourd'hui, c'est que au fond, comme lui, nos parents se sont enfuis. C'est que d'une certaine manière, nos familles sont aussi des rescapés, pas des pogroms d'Europe centrale, mais des guerres de religion intra-chrétiennes. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache, même ici, qu'au XIXe siècle, quand les ouvriers ont commencé leurs travaux pour établir les fondations de la tour Eiffel, ils ont découvert des bras, des jambes, des têtes, des ossements. Les ossements des corps de quelques-uns des 2000 cadavres jetés à la Seine pour l'exemple après le massacre de la Saint-Barthélemy. Et il se trouve que certains se sont échoués sur ce qui était à l'époque une petite plage, une berge de la Seine, qu'ils ont été enterrés là avec les moyens du bord, et que, au fond, c'est sur un charnier, celui des victimes de la Saint-Barthélemy, que se dresse le fier symbole de notre pays, du pays des droits de l'homme et du citoyen. C'est le paradoxe de l'histoire. Mémoire des persécutions, dit donc, et des barbaries, ici à Paris ou au loin en Europe centrale, dans cette toute petite communauté juive qui, devant la violence des violents et la barbarie des barbares, rêvait de quoi ? D'un sauveur, bien sûr, d'une créature qui pourrait les défendre, qui serait plus forte que les terroristes, plus forte que les salauds. Et le golem est né en quelque sorte de cette espérance, et c'est un peu l'ancêtre, si vous voulez, de Superman. Jerry Siegel, le génie créateur de Superman, qui est né en 1914, lui, savez-vous que c'est un fils d'émigré juif lituanien ? Et donc, si on remonte le fil jusqu'au bout, le créateur de Superman est un petit-fils des rabbins qui ont inventé le golem. Et il se trouve que lui aussi, connu dans sa chair ce que c'est que d'être victime de la barbarie du monde, puisque à 14 ans, il était dans le magasin de son père, quand des bandits armés surgissent, braquent son père devant ces bandits a une crise cardiaque et meurt sur le coup. Et je suis sûr que c'est à cet instant-là, ou disons, dans les mois qui ont suivi, que les traits de Superman, ce héros caché, défenseur de la veuve et de l'orphelin, protecteur des vulnérables, Superman, le héros des héros, est né dans la conscience de ce petit enfant, de ce petit adolescent qui venait de perdre son père sous ses yeux. L'attente d'un sauveur, l'attente d'un héros, l'attente d'une créature qui aurait tout ce que nous n'avons pas, la puissance, l'invulnérabilité, aussi le sens absolu de la justice, l'attente d'un défenseur. C'est un vieux rêve, aussi vieux que l'injustice, en tout cas aussi vieux que Caïn et Abel. Et c'est sûr qu'autour de Jésus, il y avait quelque chose de cette attente. Et le récit offert à la méditation des chrétiens le premier dimanche de Carême, c'est justement le récit de la tentation du Christ dans le désert. Et ce récit aussi, vous le connaissez par cœur. Si tu es le Fils de Dieu, ben transforme ces pierres en pain. Puisque tu as faim et puisque tu es Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ben jette-toi de cette tour. Si tu es le Fils de Dieu, sois notre golem, sois notre Superman, sois notre héros, sois notre sauveur. Et Jésus avance à travers ses fantasmes, à travers ses voies, et je ne vais pas vous refaire un catéchisme que vous connaissez depuis l'enfance. À chacune de ces tentations, il a dit non. à l'épée, il préférera la croix, à l'invulnérable le vulnérable, au pouvoir le service, à la domination des foules le service des individus et au spectaculaire l'ordinaire. Parce que son Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse et le Dieu d'Élie, n'est pas un diable de Dieu. Un diable, vous savez, c'est quelqu'un qui vous dit que si vous voulez être plus, il vous faut avoir plus, ce qui n'est évidemment pas idiot. Le diable n'est évidemment pas un idiot et c'est la raison pour laquelle on l'écoute naturellement. Mais si le diable est le dieu du plus, si tu veux être plus, tu dois avoir plus, n'allons pas du tout en conclure que le dieu d'Abraham, de Moïse, d'Élie et de Jésus-Christ serait le dieu du moins. Le dieu de Jésus-Christ n'est pas du tout le dieu du moins. Le dieu de Jésus-Christ, c'est le dieu du « il y a ». Du regarde déjà ce qu'il y a, tout ce que tu as, au lieu d'être aspiré toujours par tout ce que tu n'as pas et par tout ce qui te manque. Parce que tu as, et c'est tout le sens du psaume 8 qui a ouvert notre culte, tu as, tu es riche, tu as été même couronné. Même avant l'invention de la brouette, on savait les prodigieux pouvoirs qui avaient été placés dans les mains de l'être humain. « Tu ne manques de rien !» Et ça aussi, c'est une phrase d'un vieux psaume. « Tu ne manqueras de rien parce que tu as. » Et il y a, et il y a toujours, et il y a même dans la mort de la vie, et il y a même dans la maladie de la santé, et il y a même dans ta vulnérabilité une puissance de vie. Ce qui marche évidemment dans les deux sens. Il y a aussi de la pauvreté dans ta richesse. Il y a aussi de la vulnérabilité dans ta force. Il y a aussi dans ta santé des blessures intimes, des douleurs intolérables, des souffrances cachées. Mais il y a toujours de tout et en surabondance. Et quand les disciples du Christ eux-mêmes viendront lui dire « il n'y a pas pour nourrir cette foule immense », il n'y a pas assez de pain, il n'y a pas assez de poisson. Il leur claquera cette réponse. Qu'avez-vous? Combien avez-vous? 3 pains, 2 poissons? Pas besoin de faire de la magie? Pas besoin de transformer des pierres en pain? 3 pains, 2 poissons. Il y a. Le peu que vous avez suffit, comme ma grâce, pour que tout soit multiplié. Et le miracle opère, parce qu'il y a effectivement suffisamment de pain ici-bas pour nourrir la terre entière, et qu'il y a ici-bas suffisamment d'amour pour donner de l'amour à la terre entière. Il y a. Et parce que ce « il y a » de Dieu, ce « je t'ai tout donné », se couple toujours avec un « je suis ». Je suis avec toi, je marche avec toi, je suis attentif à toi. Alors là, vraiment, l'être humain est couronné. Il a en lui une énergie, une puissance. Parce que non seulement il a, et il a en abondance, mais il est accompagné par celui qui lui dit « Je suis, Je suis avec toi. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, hier, j'ai repéré, puisqu'il y a tout au long de l'exposition des photographies de visages de femmes et d'hommes tout à fait anonymes, qui témoignent en quelques mots de ce que c'est pour eux d'être juifs, et l'un d'eux a écrit « Ceci que j'ai volé au passage, ma seule plage de tranquillité est mon intime conviction que Dieu est là. » Ma seule plage de tranquillité est mon intime conviction que Dieu est là. Je suis avec toi. Alors tu peux partir, Abraham. Tu peux bouger puisque je t'accompagne. Prends tes clics et tes claques et pars. Pars pour toi, va. L'horizon est infini et la terre si grande, si belle. Va, je suis et tu seras. Je suis avec toi et tu seras bénédiction, parce que je suis avec toi et que tu ne manqueras de rien. Va, Moïse, fonce, fais sortir mon peuple de l'esclavage, de ces régions de servitude. Fonce, puisque je suis avec toi. C'est un peu ce que m'a inspiré cette espèce de vagabondage autour du récit de la transfiguration. Il y a chez nous, autour de nous, de la misère, de la guerre, de la violence et de la mort. C'est parfaitement clair. Il y a aussi une famine spirituelle et charnelle. Il y a des drames. Il y a des maladies et il y a de la violence. Il y a des injustices et des souffrances que l'on ne peut pas nommer. Il y a aussi le désir d'en sortir, le désir de s'en sortir, le désir de plus de paix, de plus d'amour et de plus de justice. Et de mon point de vue, l'histoire biblique que le récit de la Transfiguration récapitule au fond à travers la présence des trois principaux disciples, Pierre, Jacques et Jean, et de leur maître Jésus-Christ en gloire, et en discussion avec Moïse et Élie qui récapitulent à eux seuls toute l'histoire sainte, l'histoire biblique, eh bien, ce que ce récit récapitule et nous donne à lire et à voir, c'est qu'il n'y a pas ici-bas de super-héros. C'est l'histoire de gens comme vous et moi, qui n'avaient pas plus de pouvoir que nous n'en avons et qui en avaient peut-être même beaucoup moins que nous n'en avons, mais qui, devant le manque, se sont mis en marche, animés par un appel très puissant, plus puissant que tout ce qui pouvait les paralyser, les maintenir ratatinés, aplatis, écrasés. Un appel qui résonnait comme un ordre de route, un ordre de marche, une mission, quelque chose qui venait de beaucoup plus loin qu'eux. Et eux se sont exécutés. Ils n'ont pas eu peur, ils se sont mis en marche, sans savoir où tout cela les mènerait, et la plupart du temps, cela leur valut pas mal de contrariété et d'embêtement. Mais ils ont eu confiance en cette voix qui leur ouvrait la voie en leur disant « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Et ils ont découvert, cachés sous leur manque, une puissance électrique qui, les éclairant, éclaira par eux. Et ce que ce récit nous enseigne, c'est que Dieu en Jésus-Christ, lui-même ici-bas, n'a pas d'autre destin, n'a pas d'autre choix que d'être ni plus ni moins que l'un d'entre nous. Et c'est le sens de Pâques. C'est l'histoire de Jésus-Christ qui nous sauve non pas comme un Dieu sauverait des hommes, mais qui nous sauve par les forces de vie qu'il sait réveiller en nous. La lumière du monde qu'il est ne réverbère pas seulement la lumière du Père, c'est aussi et surtout un formidable extracteur de lumière pour celles et ceux qui tendent vers lui leurs pauvres mains épuisées par la vie. Et sous les yeux de ses disciples, il brille de mille feux. Il est, nous dit le texte grec, métamorphosé. Et ce verbe qu'on ne trouve qu'ici, dans tous les évangiles, se retrouvera en tout et pour tout deux fois dans le reste du Nouveau Testament et chaque fois dans les épîtres de Paul, dont une fois dans ce passage que je vous ai relu tout à l'heure pour la liturgie de ce jour, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez métamorphosés vous-même par le renouvellement de votre intelligence. » C'est ça qui nous est donné à chacun et à chacune d'entre nous, d'être métamorphosés par cette lumière qui nous environne, mais qui est aussi au fond de nous, et qu'il s'agit simplement de laisser briller, puisqu'elle est là. Quelle tâche plus noble que celle à laquelle nous sommes appelés de ne pas avoir à créer d'avatar, ni de rêver à l'intervention d'êtres supérieurs qui viendraient faire le boulot à notre place en quelque sorte, mais avec le peu que nous avons et qui est déjà si grand, réfracter la lumière et la réfractant l'éveiller et en l'éveillant métamorphoser le visage de notre monde. Amen.